Chapitre 6 Les fils des prophètes et le Jourdain. Avant d'aborder le sujet de ces quelques versets, nous désirons récapituler l'histoire des fils des prophètes telle que ce livre nous la présente. Les fils des prophètes, nous l'avons vu, représentent le résidu prophétique d'Israël mis en rapport avec le Messie par son esprit au temps de la fin. Au chapitre 2, ils sont encore dispersés çà et là, les uns à Bethel, les autres à Jéricho. Ils possèdent une connaissance partielle des pensées de Dieu. Ils savent par prophétie que l'Éternel va enlever Élie, mais une vraie intelligence leur manque. Ils ne sont pas encore réunis avec un caractère commun qui les forme, pour ainsi dire, encore de témoignage. Les uns restent à Bethel, s'attachant aux promesses de Dieu, les autres à Jéricho, sentant le poids de la malédiction de Dieu contre son peuple. Ils ne s'arrêtent pas au Jourdain et, en figure, n'en comprennent pas la valeur. Ils ne connaissent pas encore toute l'efficace de la mort de Christ qu'ils contemplent à distance. Chapitre 2, verset 7. Ils montrent leur ignorance de sa résurrection, car, en cherchant le corps d'Élie, ils cherchent parmi les morts celui qui est vivant. On les voit ensuite dans la détresse. Chapitre 4, versets 1 à 7. La mort passe au milieu d'eux, et leur veuve manque de moyens de subsistance. C'est alors qu'Antipe, l'huile dont ils ont besoin, l'esprit, leur est versée par le ministère d'Élisée. On les trouve, après cela, rassemblés en un corps de témoignage autour du prophète à Gilgal. Le jugement d'eux-mêmes, l'affliction et la repentance les caractérisent, toujours Antipe. C'est alors qu'ils apprennent la valeur de la sainte humanité de Christ, venu dans ce monde pour leur apporter la vie, quand la mort est dans la marmite, parce qu'ils n'avaient pas su distinguer le bon fruit du mauvais. C'est là que, dans leur extrême pauvreté, en un temps de famine et de tribulation, l'Éternel nourrit ses pauvres témoins. C'est enfin dans ce même lieu, comme jadis Israël à son entrée en Canaan, qu'ils se nourrissent en figure d'un Christ humilié et ressuscité et apprennent à le connaître. Peu à peu, leur intelligence spirituelle s'étend, marquée par une appréciation croissante du Seigneur. Après ces choses, le Jourdain, déjà présenté auparavant comme la mort, suivi de la résurrection de Christ, est montré, au chapitre 5, comme le seul moyen de purification des gentils, envers lesquels il commence à manifester son influence avant que le résidu prophétique y participe. Mais, demeurant à Gilgal, il ne peut y rester indéfiniment. Ce temps de grâce envers les gentils est celui où son ombre se complète. Tu vois que ce lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Chapitre 6, verset 1. Il s'agit pour eux de faire un pas de plus, de trouver un autre lieu d'habitation que celui, quelque précieux qu'il soit, de l'affliction et de la repentance. Ce lieu, c'est le Jourdain. Ils connaissent maintenant la valeur du Jourdain. La mort y avait été annulée par la puissance de l'esprit d'Élie. Le prophète y avait passé pour monter au ciel. Élisée y était revenu en puissance pour leur apporter la bénédiction. Ils connaissaient déjà la mort de Christ comme le seul chemin possible pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il venait de la connaître comme la purification de la souillure des gentils, dans le temps même où cette souillure s'attachait à Israël infidèle, Géasi. Le Jourdain merveilleux qui a guéri la souillure de Naaman est la source toujours ouverte pour la souillure d'Israël. Le résidu désire s'y construire une maison et y habiter. Il reconnaît enfin que cette mort est pour lui le lieu de la bénédiction et du repos. Tel est le point où les fidèles aboutissent. Quand ils ont atteint cet endroit, ils y restent, y demeurent ensemble, ils ont trouvé le repos, un nid comme l'hirondelle, une maison comme le passereau. Élisée approuve leur dessein et les met à l'épreuve en leur disant « Allez !» Mais comment iraient-ils sans lui? Il leur faut y habiter sous la direction de l'Esprit de Christ, sinon la bénédiction ne serait pas avec eux. Comment l'Esprit de Christ resterait-il à Gilgal? Tandis qu'eux iraient habiter au Jourdain sans lui. Comme le Seigneur, alors que Jaïrus faisait appel à lui pour sa fille, Élisée consent à venir avec ses serviteurs. Il dit J'irai. Verset 3. Arrivé au bord du Jourdain, il travaille, mais subitement le travail est interrompu. Un fils de prophète perd dans le fleuve son instrument qui n'est même pas à lui, car il l'a emprunté. Sa pauvreté, son incapacité sont ainsi manifestées. Il est sans ressources. Le fleuve de la mort engloutit toute son espérance. Élisée seul, Christ en esprit avec le résidu, peut y remédier. La mort est vaincue. Il n'a pas seulement le don de purifier, mais elle rend aux croyants la puissance perdue pour travailler à l'œuvre de Christ et faire habiter Israël en sécurité. Tout vient de lui, de la puissance de son Saint-Esprit, de la vertu de sa mort. C'est lui qui dirige l'œuvre, qui donne les moyens de l'accomplir, qui remplit le cœur des siens du sentiment de leur incapacité, qui affermit l'œuvre de leurs mains. Psaume 90, verset 17. Sans cet événement, le résidu prophétique pourrait avoir confiance en son intégrité très réelle, en sa capacité pour faire l'œuvre de Dieu en Israël. L'Esprit de Christ seul a le secret de mettre la force entre ses mains afin de le faire travailler à son œuvre. Notons que tout cela se passe au milieu de la ruine du peuple et que ce n'est pas encore l'image de la possession paisible des bénédictions millénaires. Élisée seul pouvait habiter au Carmel. Il s'agit ici des expériences graduelles du résidu prophétique, occupé à bâtir une maison d'habitation, où Élisée puisse être avec lui pendant le règne du roi profane. C'est le moment décrit au psaume 90, où Christ se repent à l'égard de ses serviteurs, verset 13. Il leur vient en aide dans toutes leurs infirmités, le même moyen qui, jadis, avait changé en eau douce les eaux de Marat, donne la puissance pour l'œuvre au résidu, et fait rendre à la mort ce qui semblait perdu, anéantissant du même coup toute prétention du créancier de ce pauvre peuple à réclamer ce qui leur avait été confié sous le régime de la loi. Nous ne pouvons assez insister sur la valeur prophétique de ces récits. Ce n'est pas, nous allons le voir, qu'on ne puisse y trouver une application évangélique, comme en toute autre partie des Écritures, mais constatons qu'il est bon de remettre ces événements dans leur cadre naturel, pour éviter des interprétations hasardées. Cela dit, abordons l'explication morale de ce récit, applicable à nos circonstances. Le Jourdain est un lieu excellent d'habitation pour le croyant. Il lui faut toujours demeurer là où il est crucifié avec Christ. C'est là que nous trouvons la puissance du Seigneur avec nous. C'est là que, réunis autour de lui, nous réalisons l'unité de l'Église. Nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Verset 2. C'est là que le Seigneur se rend volontiers avec les siens pour leur accorder son aide et sa puissance quand il l'y invite. Il reconnaît et approuve la simplicité de cœur qui réalise que la bénédiction se trouve à l'endroit où le néant de l'homme a été prouvé dans sa mort. Sans sa présence personnelle avec son peuple, tout notre travail serait inefficace. Alors, son aide ne manque pas quand nous mettons la main à l'œuvre. Le fer du fils des prophètes n'avait pas été, comme pour Israël, un instrument de mort pour son prochain, Deutéronome 19, verset 5. Et, cependant, même dans ce dernier cas, il y avait une ressource pour le peuple qui, dans son ignorance, avait été l'instrument de la mort de Christ, car il pouvait s'enfuir dans la ville de refuge. Dans la scène qui nous occupe, le travail est tout simplement interrompu, un travail entrepris pour la famille de Dieu. Mais quel monde que celui où un fils de prophète n'a pas même un instrument de travail qui lui appartienne. Christ répond toutefois aux moindres besoins des fils de son peuple. Il est plein de compassion pour l'angoisse d'un pauvre cœur humain à propos d'un instrument perdu. Cette perte, quelque infime qu'elle soit, émeut son cœur. Le miracle est enfantin, pour ainsi dire, mais c'est un miracle d'amour. Le monde, en lisant ce passage, peut bien l'accueillir d'un rire moqueur. Est-il croyable, dira-t-il, que Dieu nous révèle de tels enfantillages? Le croyant comprend cette sollicitude et en jouit avec adoration. Il sait que Dieu est pour lui et que celui qui, pour nous, a livré son propre Fils, nous donne toutes choses avec lui. Il pourvoit aux moindres besoins des siens, mettant en œuvre le même amour qui a pourvu au plus grand. Christ lui-même, qui s'est abaissé jusqu'à la mort, peut, bien mieux qu'Élisée pour les prophètes, sympathiser à nos infirmités et y pourvoir. Ce passage nous offre encore une instruction. Amara, un bois symbole de la croix de Christ, avait ôté l'amertume des eaux, symbole de la mort. Ici, le même moyen abolit la puissance de la mort qui retient l'objet dont elle s'est emparée. La mort dont on ne revient pas est, depuis le péché de l'homme, sa destinée naturelle. La croix seule, du moment qu'elle intervient, est capable de vaincre et d'annuler cette puissance inexorable. Elle se met à notre service pour nous restituer nos biens, et la mort vaincue ne peut plus rien garder de ce qui nous appartient. Versets 8 à 23, d'autant. La guérison du chef de son armée ne semble avoir produit aucun effet sur la conscience du roi de Syrie. Ses bandes avaient déjà fait maintes incursions sur le territoire d'Israël, et les rapports entre les deux rois étaient assez tendus pour que, dans l'affaire de Naaman, le roi d'Israël supposa que celui de Syrie cherchait une occasion contre lui. Chapitre 5, verset 7. Il ne s'agit plus maintenant d'escarmouches. La guerre a éclaté tout de bon. Le roi de Syrie dresse son camp, ci et là, cherchant à attirer Joram dans le piège par son ignorance des mouvements de l'adversaire. Mais il compte sans Dieu. Élisée vient en aide au roi d'Israël, l'avertissant bien des fois de la situation du camp syrien. La faveur de Dieu reposait-elle donc sur Joram? Nullement, car le cœur du roi n'avait pas changé depuis le jour où Élisée lui avait dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Mais Dieu voulait prouver au roi de Syrie et à son armée qu'il y avait un prophète en Israël, que l'Éternel était là, comme il l'avait déjà montré une fois lors de la guérison de Naaman. En agissant ainsi, il montrait sa longue patience envers Joram et son peuple, et si, en présence de telles faveurs, ce méchant roi ne se tournait pas vers l'Éternel, il n'avait plus d'excuses. Voyant ses desseins continuellement déjoués, le roi de Syrie suppose une trahison de son entourage, car l'idée de Dieu et de son intervention, cela ressort constamment du cours de ses récits, ne se présente pas même à son esprit. Le monde pense toujours ainsi. Il attribue tous les événements de sa vie à des causes secondes, plutôt que d'y voir la main de Dieu. L'un des serviteurs du roi, plus au fait que lui du véritable état des choses, le détrompe. Le discernement et la connaissance spirituelle décroissent généralement en raison de l'élévation de l'homme, et ceux qui auraient le plus intérêt à savoir la vérité sont ceux qui la connaissent le moins. Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Verset 12. Pensée pénible, angoissante, effrayante même. Quoi ? Un personnage invisible est au fait de toutes mes voix, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, il la connaît tout entière. Psaume 139, versets 3 et 4. Quand le cœur manque d'honnêteté, ne se rend pas à cette constatation et ne s'écrie pas « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ?» Il s'étourdit ou s'insurge contre Dieu. C'est ce qui arrive au roi de Syrie. « Allez, dit-il, et voyez où il est, et j'en verrai et je le prendrai. » Il n'a qu'une pensée, se débarrasser du prophète et éteindre ce regard qui fixe chacun de ses mouvements. Alors il se sentira délivré de ce témoin gênant qui ne lui permet ni de suivre sa volonté, ni d'accomplir ses desseins. Aussi déploie-t-il toutes ses forces, une armée entière, chevaux et chars, pour se saisir d'un seul homme. Le monde est toujours gêné par la présence de Dieu. En Gethsémané, une compagnie de soldats et une foule et des huissiers, tous armés d'épées et de bâtons, se rassemblent contre Christ afin de renvoyer au ciel d'où il était venu ce témoin qui leur était à charge. Songeait-il, le roi de Syrie, que si même il supprimait le porteur visible du témoignage en Israël, il n'aurait pas supprimé l'œil du Dieu invisible ? Allez et voyez où il est. Les yeux de la chair pouvaient découvrir facilement où se trouvait Élisée, car il ne se dérobait pas. Dieu n'a rien à cacher. Il est la lumière même. Les hommes, au contraire, aiment les ténèbres et ont peur de la lumière. C'est pourquoi l'armée monte, de nuit, pour environner la ville. Verset 14. Le serviteur d'Élisée, levé de bon matin, voit toute la force ennemie, l'armée, les chevaux et les chars, et s'en effraye. Ses yeux ne le trompent pas, mais ce qui lui manque, ce sont les yeux de la foi. C'est pourquoi il désespère aussitôt. Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Verset 15. En effet, l'armée syrienne, sûre d'elle-même, déploie toute sa force contre un seul homme sans défense, et comment pourrait-il résister ? Le serviteur voit l'armée et conclut de même. Il n'est pas excusable, parce qu'en sa qualité de serviteur du prophète, il est constamment en contact avec les choses invisibles et devrait savoir qu'aucune force humaine ne peut tenir devant la puissance de Dieu. « Ne crains pas, dit Élisée. » Note 1. Dans tous les passages que nous allons citer, le mot « ne crains pas » est le même en grec dans le Nouveau Testament et en hébreu dans l'Ancien. C'est toujours la première parole de la grâce. Elle a le don de rassurer une âme angoissée. Que de fois ce mot « ne crains pas » est prononcé dans les Écritures. Il remplit l'Ancien comme le Nouveau Testament. Tout est fait dans ce monde pour inspirer de la crainte à de pauvres êtres débiles et pécheurs comme nous. Nous sommes aux prises avec des circonstances difficiles, avec le monde, ses séductions ou son hostilité, avec la haine de Satan, avec nous-mêmes et notre nature pécheresse. Puis vient la nécessité de nous présenter devant Dieu et d'avoir affaire à lui. Qui répondra à tant de questions troublantes ? Qui pourra apaiser l'angoisse et l'agitation de nos cœurs ? Dieu seul, car lui a réponse à tout. « Ne crains pas, dit Jésus au pécheur, qui se jette à ses pieds, repris dans sa conscience devant sa grâce puissante. » Luc 5, verset 10. C'est là le premier mot de notre histoire. « Ne craignez pas, dit-il à ses disciples, quand l'orage s'élève et menace de les engloutir. Ne craignez pas, quand déjà le naufrage est consommé. » Matthieu 14, verset 27. Acte 27, verset 24. Ne crains pas, dit-il au petit troupeau sans défense, au milieu des loups, qui ont le pouvoir de mettre à mort les brebis. Luc 12, verset 32. Matthieu 10, verset 28. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas, quand Satan déploie toute sa puissance pour entraver l'œuvre divine. Acte 18, verset 9. Ne crains pas, quand la mort a déjà fait son œuvre. Marc 5, verset 36. Mais ce mot se fait surtout entendre dans les occasions solennelles où des êtres de faiblesse et d'infirmité, portant la chair en eux, sont appelés à rencontrer Dieu. Même s'ils ne se révèlent que par un ange puissant en force, messager céleste, l'âme à laquelle ils s'adressent est saisie d'un trouble profond et a besoin, comme Zacharie ou Marie, de ce mot si réconfortant « ne crains pas ». Luc 1, versets 13 et 30. À plus forte raison, quand des hommes misérables se trouvent en présence de tout le cœur des armées célestes et que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, ont-ils besoin de cette parole « Ne craignez pas » Luc 2, verset 10. Mais qu'adviendra-t-il aux disciples quand, sur la sainte montagne, ils devront pénétrer dans la nuée de gloire, demeure de l'Éternel ?« Ne craignez pas, leur dit Jésus. » De pauvres femmes qui croyaient avoir perdu pour toujours l'homme humble et débonnaire qu'elles avaient suivi sur la terre, se trouvant subitement en présence du Christ ressuscité, ont besoin de cette parole. Ne craignez pas. Enfin, le disciple bien-aimé, qui avait reposé sa tête sur le sein de Jésus, le rencontrant vêtu de l'appareil resplendissant et terrible du Dieu juge, et tombant à ses pieds comme mort, est doucement réveillé par cette parole. Ne crains pas. Apocalypse 1, verset 17. Le secret de cette parole, c'est la grâce. Nous avons affaire à elle seule. Elle nous rassure, même quand nous nous trouvons devant le Dieu de jugement, car le juge est notre sauveur. Dans l'Ancien Testament, l'âme est beaucoup moins souvent rassurée, quand elle se trouve en la présence directe de Dieu, parce que Dieu n'y est pas encore pleinement manifesté comme le Dieu de grâce. L'ami de l'Éternel, Moïse lui-même, disait « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Tout au plus entend-on cette parole quand Gédéon rencontre face à face l'ange de l'Éternel et quand Daniel, humilié, se tient devant le représentant du Messie. Daniel 10, versets 12 et 19. Mais par contre, ce mot « ne crains pas » y revient continuellement comme l'assurance du croyant isolé au milieu des difficultés et de la détresse et de la haine du monde. Abraham, Agar, Isaac en sont des exemples. Genèse 15, verset 1, 21, verset 17, 26, verset 24. Un sacrificateur persécuté, un Méphibosheth, l'entend de sortir de la bouche de David, loin de l'Éternel, auprès duquel ils ont cherché refuge. Une pauvre veuve sidonienne, près de succomber, le reçoit des lèvres du prophète. 1 Samuel 22, verset 23, 2 Samuel 9, verset 7, 1 Roi 17, verset 13. Cette parole frappe les oreilles du peuple de Dieu chaque fois qu'il a affaire à l'ennemi, soit en Égypte, soit aux confins du désert, soit en Canaan sous Josué, soit même dans la période de ruine qui caractérise le royaume d'Israël et dans celle qui suit la transportation. Exode 14, verset 13, Nombre 14, verset 9, 21, verset 34, Deutéronome 1, verset 21, 3, verset 2 et 22, 7, verset 18, 20, verset 3, 31, verset 6 et 8, Josué 8, verset 1, 10, verset 8 et 25, 11, verset 6, 2 Chroniques 20, verset 17, 32, verset 7, Ésaïe 7, verset 4, Néhémie 4, verset 14. Et quand Israël gît au fond de la fosse des abîmes, et de là pousse vers Dieu son cri de détresse, l'Éternel lui répond « Ne crains pas ». Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 57. Enfin, quand ce peuple coupable, courbé sous le jugement de Dieu, châtié et repentant, mais prêt de désespérer, entend ces mots prononcés au bout de son temps d'épreuve, « Consolez, consolez mon peuple !» Nous entendons cette parole « Ne crains pas » se répéter, se multiplier d'écho en écho. « Ne crains pas, mon amour te console. Je t'aiderai, je te fortifierai, je serai avec mon serviteur. Ne t'ai-je pas racheté? Ne suis-je pas avec toi? Ne crains pas, je te rafraîchirai. Ne crains ni l'opprobre, ni les outrages, ni la honte. Tu es à moi, et je t'ai reçu en grâce. » Toute la fin d'Ésaïe a pour refrain ce mot consolant et divin. Ésaïe 41, verset 10, 13, 14, 43, verset 1 et 5, 44, verset 2, 51, verset 7, 54, verset 4. L'assurance de la faveur de Dieu dissipe la crainte, l'amour parfait la bannit. Combien de fois nous trouvons dans les psaumes cette absence de toute crainte devant l'ennemi, devant l'ébranlement de toutes choses, devant les menaces de la chair et de l'homme. Psaume 27, verset 3, 46, verset 2, 56, verset 4 et 11, 118, verset 6. En vérité, tout est joie pour le croyant, tout est confiance, parfaite assurance et paix, parce que, au travers de tout, il a Dieu pour lui, celui dont il est dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»« Ne crains pas, dit Élisée à son serviteur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 16. Et il prie, disant « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Les yeux de sa chair voyaient l'armée ennemie et ne se trompaient pas, et cependant il était aveugle. Il y avait des choses qui nécessitaient l'intercession du prophète et l'intervention de l'Éternel pour qu'il pût les voir. Ses yeux furent alors ouverts, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 17. Les anges, ces chars de feu et cette cavalerie, rassemblés pour remporter Élie au ciel, sont maintenant rassemblés pour garder un seul homme sans défense sur la terre, anéantissant tous les desseins de ses ennemis. Cette intervention divine en faveur des rachetés n'a jamais cessé. Jacob l'avait contemplé quand les anges en deux bandes l'avaient rencontré à Mahanaïm et qu'en présence d'un danger imminent, il avait pu dire de lui-même, s'identifiant avec l'armée de l'Éternel, « Je suis devenu deux bandes. » Genèse 32, versets 1, 2 et 10. Cette même armée angélique frappera les adversaires du Seigneur et de l'Assemblée, quand il sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance en flammes de feu, de Thessaloniciens 1, verset 7, selon ce qui est écrit, « qui fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. » Hébreux 1, verset 7. Comme la bande d'Ésaü disparaissait devant celle de Mahanaïm, l'armée des Syriens est comme une bande de fourmis devant les saintes myriades dont la montagne était couverte. Seulement, il s'agit de protection et non de combat. comme lorsque David entendit un bruit de gens qui marchent sur le sommet des mûriers. 2 Samuel 5, verset 24. L'histoire de Jacob, que l'Éternel nommait Israël, se répète ici. Le vrai Israël était présent dans la personne de son représentant, le prophète. Au temps de la fin, le résidu aura les yeux ouverts, entendra ces mots « ne crains pas » et pourra s'écrier, lorsque beaucoup diront « qui nous fera voir du bien ?»« Je me coucherai et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, versets 6 et 8. L'intervention angélique caractérise plus directement l'économie de la loi et par conséquent aussi les temps du résidu prophétique. Note 1. Au temps de la fin, dans l'Apocalypse, le Seigneur se fera connaître dans ses voies providentielles sous une forme angélique, jusqu'à sa manifestation sur la montagne de Sion. De là l'expression « un autre ange » dans ce livre. Mais elle n'est point absente sous l'économie de la grâce, comme nous le voyons dans l'histoire de Pierre, acte 12. Seulement le fidèle est aujourd'hui sans intermédiaire en communication directe avec Christ. Ses yeux sont ouverts pour voir Jésus, non pour voir les anges. Il peut dire « nous avons vu le Seigneur », non les chariots d'Israël. Communion plus intime du chrétien, par meilleure que celle du résidu. Et du moment que Jésus entre en scène, l'âme reçoit de lui l'assurance qu'elle n'a rien à craindre, parce qu'il est la ressource absolument suffisante en toute éventualité. Dieu, qui ouvre les yeux du serviteur d'Élysée, frappe l'armée syrienne de cécité sur la demande du prophète. Le même Dieu qui avait fermé et ouvert les yeux à la prière d'Élie ouvre ou ferme les yeux des hommes à la prière d'Élysée. C'est que ces demandes partaient de cœur en communion réelle avec la pensée de Dieu, et qu'il ne lui demandait que ce qu'il voulait faire. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. À bien plus forte raison en est-il ainsi du Seigneur Jésus. Il pouvait dire « Je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours. » Jean 11, versets 41 et 42. Il les frappa de cécité selon la parole d'Élysée, verset 18. Quelle grâce le Seigneur nous accorde! Il nous tient compte, comme venant de nous, de ce que nous avons demandé par la foi et par l'Esprit, don gratuit de Dieu. Le prophète peut dès lors se montrer ouvertement aux ennemis. Ils ne le reconnaissent pas. Lui les conduit à Samarie. Alors l'Éternel leur ouvre les yeux sur la demande du prophète. Ceux du serviteur l'avaient été pour voir sa délivrance. Les leurs pour voir leur perte en présence du jugement de Dieu. Point de ressources, position sans issue, ruine irrémédiable. Mais celui qui seul a le droit de les juger ne le fait pas. C'était sa grâce qui les amenait devant son jugement. Le roi profane et incrédule les voit et voudrait les mettre à mort. Frapperai-je mon père ? Malgré ses yeux ouverts, il est aussi aveugle que l'étaient ses ennemis. Note 1. Les diverses manières de voir sont du plus profond intérêt dans ce chapitre. Nous trouvons d'abord Élisée, le voyant, qui n'avait pas besoin que ses yeux fussent ouverts pour voir l'armée de l'Éternel, puis son serviteur, dominé par le souci des choses visibles, auquel il faut l'intervention du prophète pour se rassurer en voyant les choses invisibles. Nous trouvons encore l'armée de Syrie, doublement aveugle, parce qu'elle croit voir et qu'elle est plongée dans la nuit, puis cette même armée, voyant enfin son sort sous le jugement de Dieu, mais ayant en même temps les yeux ouverts pour s'asseoir au grand festin de la grâce. Nous trouvons enfin le roi d'Israël étranger aux pensées de Dieu, qui croit voir et dont le péché demeure. Jean 9, verset 41. Triste représentant d'Israël, ennemi de Christ et qui mûrit de plus en plus pour le jugement. Il voudrait exercer le jugement, lui qui le mérite mille fois plus que cette nation idolâtre, car il ne voit ni ne peut comprendre la grâce. Élisée lui répond « Tu ne frapperas point ». Joram méritait d'être frappé et n'avait pas le droit de frapper les autres. Mais Dieu voulait montrer, à lui, aussi bien qu'à tous, qu'aucun jugement ne doit atteindre ceux qui sont convaincus de leur perdition. Il n'était pas trop tard pour eux. La grâce de Dieu venait de les conduire au jugement, mais dans ce monde, et non pas au-delà de la vie d'ici-bas, où toute ressource sera fermée. Bon gré, mal gré, ces hommes avaient rencontré le dieu d'Élysée et non le dieu d'Élie. Ils ne sont pas anéantis par le feu du ciel, qu'ils avaient mérité, mais comme retirés du milieu du feu pour faire l'expérience des compassions du dieu qu'ils avaient offensé. Mais, dit Élysée, du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur seigneur. Tout tremblant encore, au lieu de l'épée du roi, ils trouvent un festin que Dieu leur a préparé. C'est le grand souper de la grâce. Ces hommes qu'avaient-ils fait pour avoir part à une telle libéralité? Ce qu'avaient fait Saul de Tarse et tant d'autres ennemis de Christ, dans l'ignorance sans doute, mais ils avaient fait la guerre à Dieu, et Dieu répond ainsi à leur haine. Dès ce moment, les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël. Les assauts isolés prennent fin, mais Satan ne peut se tenir tranquille. Versets 24 à 33. Le siège de Samarie. Jamais l'ennemi du peuple de Dieu ne se tient pour battu. Si les bandes syriennes convaincues de la puissance du Dieu d'Israël cessent de faire leur incursion dans le pays, Ben-Hadad, par contre, rassemble toute son armée pour assiéger Samarie, et ce siège amène à sa suite une grande famine. Telles sont les conséquences du péché d'Israël. L'ennemi, sans le savoir, était envoyé de Dieu en jugement contre ce peuple, mais il y a en même temps l'image du prince de la mort auquel l'homme pécheur ne peut échapper. La famine est la conséquence de la présence de l'ennemi qui, certes, ne songera jamais à nourrir ceux qui l'oppriment. Elle est comme une autre forme de la mort qui pèse sur ce peuple coupable. Dans tout ce chapitre, c'est donc la mort qui domine, sort terrible et inévitable mérité par l'homme pécheur. Mais Dieu a des ressources contre la mort même. Il le fait proclamer par le prophète, et s'il annonce qu'il supprimera la famine, nous verrons que c'est en supprimant l'ennemi, instrument de son jugement. Cela nous introduit dans le domaine de la grâce et de l'Évangile. Après ce court résumé, examinons en détail le contenu de cet intéressant chapitre. Samarie était la capitale et le centre d'un monde religieux qui gardait encore l'apparence de conserver le culte de l'Éternel, mais qu'il avait corrompu. Ce monde-là, nous le retrouvons de nos jours sous une autre forme, et c'est précisément à cause de sa prétention religieuse qu'il est l'objet du jugement de Dieu. Tous les sacrifices étaient tolérés à Samarie, et la famine, au lieu de faire rentrer en eux-mêmes le peuple et son roi, ne servait qu'à faire ressortir l'épouvantable égoïsme du cœur des hommes qui, pour éviter de mourir de faim, sacrifiaient même leurs enfants au lieu de se sacrifier pour eux. Si de telles choses pouvaient se rencontrer dans ce milieu, ce n'est pas que les dehors religieux en fussent bannis. Le roi même portait en signe de deuil et de mortification, probablement dans l'espoir d'écarter le danger, un sac sur sa chair, mais sans que sa conscience fût atteinte ou son cœur changé. Nous voyons les mêmes faits se produire dans la chrétienté, quand les nations sont frappées de calamités publiques. Le roi se mortifiait au moment même où, rempli de haine, il cherchait la vie du prophète de l'Éternel. Le roi dit « Ainsi Dieu me fasse et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, demeure sur lui aujourd'hui. » Verset 31. Lui qui était obligé de dire à la femme en détresse « Si l'Éternel ne te sauve, comment te sauverai-je » et qui déchirait ses vêtements devant l'horrible réalité, rejette avec violence le seul homme par lequel un moyen de salut lui est offert. Comment avait-il donc oublié que le prophète lui avait sauvé la vie non pas une fois ni deux fois, et que l'Éternel, avec une patience sans borne, lui avait tendu une main secourable? Tout cela était non avenu pour lui, parce que la seule chose qu'il ne voulut pas admettre, et précisément la seule importante, était que ses péchés lui avaient mérité le jugement et la mort. Pendant que ces choses se passent, le prophète est assis dans sa maison, s'entretenant en paix avec les anciens. Mais comme voyant, il n'a pas besoin que Dieu lui ouvre les yeux pour connaître les intentions de l'homme ou réaliser la protection de Dieu. Fidèle à son serment, le roi envoie un messager avec l'ordre de décapiter Élisée et, altéré de vengeance, suit sur ses talons l'exécuteur de sa sentence. Avant qu'il arrive, le prophète l'a vu. Voyez-vous que ce fils d'un meurtrier, Akab, envoie pour m'ôter la tête? L'homme trouvant la porte barricadée ne peut accomplir sa mission et retourne auprès de son maître. Déjoué dans ses desseins, le roi dit « Je renonce à me confier en Dieu. Voici, ce mal est de par l'Éternel. Pourquoi m'attendrai-je encore à l'Éternel ?» Verset 33. Combien de fois l'homme, dans son état de révolte contre Dieu, raisonne comme Joram. Puisque Dieu ne m'accorde pas ce que je désire, ne me donne pas la guérison d'un être cher, ne me sort pas de mes difficultés matérielles, je me débarrasse de mes obligations envers lui. Il n'existe plus pour moi. Ah, c'est que, pas plus que Joram, le cœur des hommes ne veut remonter à la racine de notre mal qui est le péché et admettre ses conséquences. Il ne veut pas se repentir. Son orgueil refuse de se mettre à la merci de son juge en reconnaissant qu'il a raison de le condamner. Les appels même de Dieu lui fournissent une nouvelle occasion de s'endurcir. Comment Dieu répondra-t-il à tant de méchanceté et de révolte? Il fait annoncer sa grâce par l'homme même dont le roi cherche la vie. Et Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. » Demain, à cette heure-ci, la mesure de fleurs de farine sera à un sicle, et les deux mesures d'orge à un sicle, à la porte de Samarie. Chapitre 7, verset 1.